Cité Radio. Il est 20h.
Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Cinérama.
Oui.
Cinérama.
J'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test. Blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission de cinéma qui dure une demi-heure. Et pendant cette demi-heure, il y aura deux interviews. On est très heureux de vous les proposer. Et toi, Sophia, tu as rencontré le réalisateur de Resilient Man.
Absolument, j'ai rencontré Stéphane Carrel, donc pour parler de la résilience dans le milieu de la danse.
Et puis moi, j'ai rencontré Stéphane Desmoustiers, le frère d'eux, hein, de l'actrice, pour le film Borgo. Et tu as aussi vu un autre film qu'on a tous les deux apprécié, mais c'est toi qui vas le chroniquer.
Oui, coup de cœur de l'année 2024 pour moi, il s'agit de Riddle of Fire.
Et puis toi, Guillaume, tu as vu un film présenté à la quinzaine des cinéastes l'an dernier.
C'est ça, moi j'ai rencontré une mouette avec Ennis Man.
Quant à Manu, il nous parlera du Mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi. Mais nous allons débuter avec un film plutôt attendu. Ce sont les États-Unis qui vivent la fin d'une guerre civile que l'on traverse avec une poignée de journalistes. Nous parlons maintenant de Civil War.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinerama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
19 États ont fait sécession.
L'armée américaine intensifie ses actions.
La Maison-Blanche met en garde les forces de l'Ouest et l'Alliance de Floride.
Le président qui entame son troisième mandat assure que ce soulèvement sera rapidement maîtrisé.
On ne sait pas quand ni comment elle a commencé, mais une guerre civile frappe les États-Unis scindés en deux camps. La préparation de discours du président américain qui ouvre le film en dit assez sur l'issue du pouvoir de celui-ci. Civil War d'Alex Garland est attendu par certains, car en montrant une Amérique à feu et à sang, il donnerait dans l'oxygène à quelques mois des élections américaines. Il n'y a pourtant pas de lien à trouver avec les États-Unis actuels. Mais la force du film est sans doute de ne pas nous emmener dans un pays inconnu, mais bien au contraire dans un pays qui fait sans cesse parler de lui. Le réalisme est à ce point-là saisissant et les grands fracas de la bande-son sont redoutables. C'est aussi par des combats ultra-violents et une population prise à partie que débute ce film de guerre et d'action qui a vite fait de se transformer en road movie quand trois journalistes et une apprentie journaliste veulent rejoindre Washington pour voir une dernière fois le président avant qu'il ne rende les armes.
Aujourd'hui, ils avancent sur Washington.
On doit aller là-bas.
Dans la capitale, ils tirent à vue sur les journalistes.
Mon instinct me dit qu'on va y rester.
Allez-y.
Chaque fois que j'ai survécu à une zone de guerre, j'ai cru que ça servirait de mise en garde chez nous. Ne faites pas pareil. Pourtant, on y est.
Plutôt que de nous mettre dans un camp ou l'autre, le réalisateur britannique nous fait donc épouser le point de vue de ces quatre journalistes. Il y a le vieillard du New York Times, un baroudeur de Reuters, une photographe de guerre aguerrie que joue Kirsten Dunst, adulée par une toute jeune photographe. Ce sera l'un des ressorts dramatiques du film, car si au premier abord la doyenne veut éloigner sa cadette de l'horreur, une relation va se nouer entre les deux femmes. L'une a tout vu quand l'autre n'a rien vu. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission quant au niveau politique, et bien cette transmission est au point d'arrêt, au point de mener jusqu'à l'affrontement.
Je crois qu'il y a comme un malentendu.
Quoi ?
On est américain, d'accord ?
D'accord. Quel genre d'américain vous êtes ? Vous le savez pas ?
D'un certain côté, Civil War peut se regarder comme un film d'action remarquablement mis en scène, avec ce qu'il y a de combats rapprochés en ville, de luttes contre les snipers et autres combattants. La tension se mêle à la violence. Il peut se voir également comme un film politique, épousant la veine des films post-apocalyptiques. On y voit eh bien, des hommes qui appliquent leurs lois, non sans y ajouter le sadisme et la barbarie ou l'arbitraire. L'intérêt de Civil War, c'est justement qu'il n'est pas que cela. Il va bien au-delà. Par le point de vue qu'il prend, il permet au spectateur de prendre de la hauteur. Le personnage de Kirsten Dunst raconte ce que fait un photographe de guerre. Il voit, et c'est aux autres de se poser les questions. Elle se demande aussi, cette photographe, la portée de son travail, sachant qu'un conflit en éclipse un autre et que les horreurs y sont toujours comparables. La fin rompt dans son tempo avec l'action pour faire entrer la relation des deux femmes dans un récit couru d'avance. Alors c'est un peu dommage, mais même cela, le réalisateur l'a tellement bien préparé qu'on ne peut pas lui en tenir rigueur. Civil War de Alex Garland est en salle depuis le 17 avril. Stéphane Carrel suit au plus près Stephen McRae, un danseur qui a subi une blessure et qui parvient, coûte que coûte, à revenir sur scène. C'est la première interview de cette émission.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Habitué des formats reportage et documentaire télévisuel, Resilient Men est le premier documentaire pour le cinéma réalisé par Stéphane Carrel. Avec donc les difficultés que cela comporte en termes de financement notamment, Stéphane Carrel a pu compter sur la notoriété de celui qu'il a décidé de filmer pour Resilient Men. Son homme résilient n'est autre que Stephen McRae, le danseur étoile star du Royal Ballet de Londres. Pour le réalisateur qui se définit lui-même comme portraitiste, il s'agit bien de dresser le portrait du danseur. Ce n'est pas un documentaire sur la danse ni sur la prestigieuse compagnie de ballet britannique, même s'il est toujours question des deux. Le film porte sur le parcours de cet homme après une chute et donc sur son rétablissement. En 2019, alors que Stephen McRae est au sommet de sa gloire, adulé et considéré comme l'un des plus grands danseurs de sa génération, il se blesse lors d'une représentation au talon d'Achille et s'effondre sur scène devant 3000 personnes. Bien que sa carrière semble alors finie, il va prendre le temps d'une rééducation lente et acharnée pour pouvoir remonter sur scène en octobre 2021 et assurer un des rôles les plus physiques du répertoire, le Roméo de Roméo et Juliette. C'est les deux derniers mois de son rétablissement que filme Carrel et toute la saison de danse qui suit. La persévérance et le goût pour une forme de perfection obsessionnelle du danseur trouvent un écho évident dans la manière dont Stéphane Carrel réalise son film. Cela se ressent dans l'attention portée aux détails, dans l'esthétique très bien léchée du film, dans cette manière de suivre le danseur partout pour faire corps avec lui. Il filme avec beaucoup de proximité la beauté de toute la machinerie corporelle impressionnante de Stephen McRae. La sublime souvent en s'approchant au plus près de lui. Et puis il n'hésite pas à ouvrir parfois des parenthèses visuelles et poétiques, scénarisées, hein, comme des incursions dans la psyché même du danseur, dont la blessure est au moins tout autant psychologique que physique. Dans ce film très esthétique, nul doute que la résilience n'est possible qu'avec un entourage solide, que ce soit la famille, la compagne psy ou la compagnie de ballet elle-même qui l'encadre, le soutien et lui permet de remonter la pente jusqu'au bout. Ce qui nous rappelle bien aussi que la résilience n'a pas toujours un visage aussi glamour chez Monsieur Tout-le-Monde. Écoutons ces Stéphane Carrel nous parlait de son très joli film qui brise les tabous du métier de danseur en évoquant de manière très honnête les dérives du métier et la nécessité de faire évoluer les choses et nous permet une incursion inédite dans les coulisses du milieu et du parcours d'un homme hors du commun.
Ce qui m'intéressait, c'était de raconter la chute d'un homme et comment il remonte en fait. C'est pour ça que le titre s'appelle Resilient Man et qu'il n'y a pas forcément le mot danse dans le film. J'ai pas mal lutté là-dessus parce que je voulais pas qu'il y ait le mot danse, parce que je voulais lui donner un vrai caractère universel. Il s'avère que Stephen est danseur, mais j'aurais pu faire le portrait d'un autre homme qui fasse autre chose et qui tombe et qui doive se relever. Et comment on gère ça, en fait. Et voilà, vraiment, ça, pour moi, c'était important. Et c'est aussi pour ça que toutes les scènes dans son intimité, avec sa famille, ses enfants, tous ces moments-là, qu'on le voit dans le métro, etc., je les ai pas inventés, c'est vraiment vrai. Et je voulais montrer tous ces aspects d'homme un peu normal et parce que je voulais vraiment montrer la différence entre l'homme, vraiment le côté très star de la danse, et en même temps il rentre chez lui, il fait à manger, il est avec sa femme, il est avec ses enfants, comme tout le monde en fait. Ce qu'a mis en place le Royal Ballet pour leurs danseurs, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire, quand on arrive au Royal Ballet, il y a un étage entier dédié aux soins du danseur. Et ça, je crois que c'est assez exceptionnel dans le monde du ballet. Donc il y a nutritionniste, il y a pilates, il y a kiné, il y a masseur, il y a une salle de sport. Donc tous les danseurs du Royal Ballet, on les voit tous les jours s'entraîner du matin au soir. Ils se font masser après chaque répétition, après chaque spectacle. Enfin voilà, il y a une prise en charge qui est assez phénoménale. D'ailleurs, quand Stephen s'est blessé, il y a eu un scanner fait immédiatement sur place avant de poser un diagnostic. Donc tout ça, il fallait le montrer parce que oui, c'était exceptionnel. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce film, et le faire sous cet angle-là, celui de la blessure dans le monde de la danse, parce que et Stephen m'a dit oui aussi pour faire ce film, parce qu'il voulait vraiment parler de ça, de la situation des danseurs aujourd'hui, et que ce film serve pour les générations futures, parce que la blessure dans le monde de la danse, c'est un sujet extrêmement tabou, on n'en parle pas, on n'a pas envie d'en parler, on a envie de montrer les danseurs magnifiques, ils font 15 tours, ils font 18 grands jetés, et on applaudit, on se dit, ouais, ils sont magnifiques, mais derrière, il y a des heures et des heures et des heures de travail, ils peuvent se blesser, et il faut prendre tout ça en considération. En fait, comme le dit très bien Stephen dans le film, si vous êtes blessé, c'est pas grave, arrêtez-vous, prenez trois mois, six mois, un an, deux ans, vous allez redanser, mais au moins vous allez redanser. Alors que si vous dansez sur une blessure, votre carrière va s'arrêter en fait, et il faut que ça s'arrête. Ouais, le film, en fait, je l'ai vraiment construit comme une fiction, presque. Je voulais pas d'interview face caméra, je voulais pas ce genre de choses, je voulais pas les témoignages d'autres personnes. Je voulais rester le plus possible dans les séquences et dans ce qui se passerait et dans les confidences de Steven.
I want to be the artist again. I want the freedom. This is my story now.
Steven, ce qu'il a toujours du mal, je crois, à digérer, c'est le fait qu'il est tombé devant 3000 personnes en plein spectacle. Le rideau s'est fermé et 20 minutes plus tard, il y a un danseur qui l'a remplacé. The show must go on, comme on dit dans le milieu. Donc c'est comme ça et il faut l'accepter. Mais c'est vrai que pour un danseur de ce niveau-là, je pense que c'est douloureux, quoi. Parce qu'on se dit, ah, en fait, je suis remplaçable. Donc voilà, il y a tout ça derrière la blessure, comment on gère la blessure, etc. Et c'est vrai que le mental, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Nous écoutions Stéphane Carrel, que tu as pu rencontrer, Sophia, pour le film Resilient Man en salle depuis le 17 avril. Il avait marqué les esprits avec Drive My Car ou Senses. Voici le nouveau film de Ryuzuke Hamaguchi, Le mal n'existe pas.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Délaissant les contes moraux hein, sur les rapports amoureux et les portraits magnifiques de femmes sous influence à la fois de Romère et de René, l'un pour le fond, l'autre pour la forme, Ryuzuke Hamaguchi revient donc avec un film radical, une expérience sensorielle et visuelle réinventant son cinéma qui s'ouvre vers d'autres horizons. Alors Le mal n'existe pas se présente comme une fable écologique sous-tendue en creux par une dimension quand même de thriller qui se joue davantage par le ressenti que par l'histoire elle-même, assez prosaïque sur le papier. Takumi, un homme rustre, et sa fille Anna vivent dans le village de Mizubiki, près de Tokyo. Ils mènent, selon les traditions, une existence modeste en harmonie avec la nature. Mais le projet d'un glamping dans le parc naturel voisin, soit un camping glamour, hein, c'est une contraction, hein. Pour les citadins en manque de verdure, crée une angoisse chez Takumi et les villageois liée à un risque de déséquilibre écologique. Le cinéaste réinvente le pamphlet universel alors sur le rat des champs et le rat des villes, hein, avec une complexité et une intelligence de regard qui l'éloigne de tout simplice et de vision manichéenne. Le génie d'Hamaguchi tient à sa seule puissance de la mise en scène, hein, qui fait preuve d'une audace ahurissante, passant d'un point de vue d'un personnage à un autre, redistribuant les cartes d'un drame cruel parsemé d'humour, qui n'est jamais d'ailleurs là où on l'attend. On pourrait s'attendre à un film à charge contre l'urbanisme, le quotidien survolté des citadins toujours pressés en opposition aux ruraux tranquilles épousant le rythme de leur environnement. Alors cet aspect n'est pas absent, mais le cinéaste ne juge personne et n'occulte pas la brutalité émotionnelle dont font preuve les villageois. Le mal n'existe pas, c'est une œuvre splendide et mystérieuse, d'une beauté visuelle sidérante, accompagnée alors d'une partition hypnotique et toujours judicieusement intégrée de la mise en scène de la musicienne Eiko Ishibashi, accompagnée d'ailleurs à la guitare par Jim O'Rourke, hein, artiste culte de la scène post-rock et expérimentale. Et d'ailleurs, pour un petit aparté, au départ, le film était un projet musical. Et donc, le cinéaste a retravaillé en fait ce projet en fait pour donner donc ce film qui est le mal n'existe pas. Alors l'épilogue déroutant, hein, même incompréhensible pour certains, remet complètement en perspective le déroulé du film, bousculant notre perception, sans doute attirée par la surface et non ce qui se tramait en parallèle. En cela, le film s'impose comme une pièce maîtresse dont la richesse ne peut suffire d'une seule vision, forcément faussée par la subtilité du récit. Alors, il n'est pas illégitime de penser que nous sommes peut-être passés à côté de l'essentiel, que nous n'avons pas vu les signes qui expliqueraient cette fin qu'on pourrait dire un peu « what the fuck » qui lorgne un peu du côté d'un fantastique qu'on a peut-être pas perçu et qui rappelle un peu certains films de Kiyoshi Kurosawa, dont Hamaguchi d'ailleurs était l'élève.
Nous parlions du Mal n'existe pas, un film en salle depuis le 10 avril. Sur une île inhabitée des Cornouailles, une bénévole passionnée de vie sauvage se livre à des observations quotidiennes sur une fleur rare. Nous parlons de Any's Men de Mark Jenkins.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Pourquoi pourquoi aller chercher midi à 14h quand on a déjà tout à portée de main ? Alors c'est ce que le Britannique Mark Jenkins a dû se dire lorsqu'a sonné l'envie et l'opportunité de signer son second long métrage, Ennis Men, puisqu'après Bait en 2019, il reprend l'actrice Mary Woodvine, parle d'une tragédie familiale et met en scène des marins et leur vie parfois conflictuelle avec leur bateau. Ah oui, hein, et quitte à marquer les esprits, il reprend également l'exacte même mise en scène, hein, basée sur des choix esthétiques bien particuliers, même s'ils n'ont aujourd'hui plus rien d'étonnant ou de dépaysant. Ennis Men est donc cadré en 4 tiers hein, et est auréolé d'une photographie très granuleuse, aux couleurs fuyantes voire bavantes, hein, comme un filtre Instagram imitant la pellicule des années 70. Alors ce qui pourrait être lassant hein, s'avère ici être un assez bon choix, car à défaut de défriser le spectateur, Ennis Men montre qu'il est le travail adroit d'un réalisateur ayant une vision assez rigoureuse de ce qui aurait pu être un piège à hipster. Oui, c'est bête, rôde encore et contamine toujours le milieu du cinéma, comme les fantômes du film dont on va parler. Le résumé officiel du film est bien sûr laconique à souhait. Alors sur une île inhabitée des Cornouailles, une bénévole passionnée de vie sauvage se livre à des observations quotidiennes sur une fleur rare. Alors sa vie est hypnotique, dans sa monotonie, elle répète les mêmes gestes jour après jour comme un rituel. Au fur et à mesure, des sons et des images provenant d'autres temporalités commencent à s'infiltrer, perturbant progressivement son équilibre. Et oui, hein, sous le soleil, même celui gelé hein, des Cornouailles, hein, pas grand chose n'a changé, il en faut toujours aussi peu pour lancer un film d'angoisse. Oui, mais voilà, s'il a tout hein, pour énerver à prime abord, Ennis Men est intriguant et, bah, sans pour autant traduire une expérience totalement mémorable, c'est suffisamment bien placer ses pions pour convaincre. Car il y avait tout hein, pour détester la démarche inaugurale, celle qui a donné naissance à tant de navets prétentieux qui n'ont rien fait de moins que de tuer le genre depuis un peu plus de 10 ans, utilisant le fantastique ou l'horreur pour cacher un manque de fond, d'inventivité et surtout bah, un franc mépris hein, pour ces mêmes cinémas fantastiques et d'horreur. Ennis Men hein, a des situations extrêmement répétitives, des plans quasiment intégralement fixe, un rythme lent, un univers parfois cryptique, une héroïne mutique, des scènes de non-action terriblement statiques. Alors bien sûr, cette routine prend une tournure étrange à un moment donné. On voit apparaître des personnes, des symboles ou des objets qui semblent avoir une signification particulière. Une part est sans doute liée au passé de l'île et une autre au passé de la protagoniste. On imagine un lien avec ces marins qui auraient disparu en mer, en particulier avec l'un d'entre eux avec qui on la voit subrepticement faire l'amour. Et on imagine aussi un lien plus fantasmagorique hein, car le terrain de jeu, hein, la planche à moitié détruite où figure le nom d'un bateau échoué, l'isolement d'un protagoniste féminin et une radio comme seul moyen de communication avec l'extérieur fait fortement penser à Fog de John Carpenter. Mais pour la comparaison avec la rigueur de Big John, ça s'arrête là. On bascule très vite, on le comprend, dans l'expérimental au-delà du contemplatif, avec un petit zeste de folk horror version film d'auteur, genre au pluriel, qui ont pris pas mal de cotes depuis quelques années, dont le modèle absolu reste The Wicker Man. Le film a été tourné pendant un confinement de 2020, donc il y a fort à parier que l'apparition du lichen sur la fleur tant observée et sur le corps de l'héroïne marqué par le temps a une signification cachée, mais cela ne constitue pas un intérêt transcendant pour la parfaite compréhension des choses. Car si l'ésotérisme prend peu à peu le dessus, il ne nous amène pas forcément vers quelque chose de clair, et c'est ce qui constitue bah, le point fort et faible du film. Jenkins ayant un don certain pour captiver avec peu, les quelques plans horrifiques avec entre autres des mineurs semblant surgir d'un mélange entre l'hôpital et ses fantômes de Lars von Trier ou de la saison 3 de Twin Peaks hein, de David Lynch, marchent du tonnerre, et si son travail assez intense hein, sur le montage et l'ambiance font leur office, on aurait aimé en savoir au final un peu plus sur ce qui est en train de ronger, et dans tous les sens du terme, notre pauvre héroïne et nos nerfs par la même occasion. Non, si je devais faire une dernière comparaison, moi je pense surtout hein, au film de Jean-Teddy Philippe, Les Documents Interdits, on y pense un petit peu avec, donc, comme je disais, ce petit zeste de folk horror typiquement britannique.
Eh bien, c'est un film à voir en salle depuis le 17 avril, ce Ennis Men. Surveillante pénitentiaire expérimentée, elle va devoir se compromettre avec le milieu corse. Nous parlons de Borgo, de Stéphane Desmoustiers. C'est la deuxième interview de cette émission.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
Stéphane Desmoustiers, le frère d'eux, hein, avait marqué il y a 4 ans avec La fille au bracelet, l'histoire d'une adolescente soupçonnée d'avoir tué sa meilleure amie. Et c'est encore une histoire de meurtre qui guide Borgo, titre emprunté au nom d'une prison corse dans laquelle le réalisateur a placé Mélissa, interprétée par Afzia Herzi. Avec son compagnon, elle vient de s'installer sur l'île de Beauté. Et dans cette prison, prison. On dit que ce sont plutôt les prisonniers qui surveillent les gardiens. Et il est vrai que la jeune femme compose avec le règlement et avec les mœurs d'un territoire qui, il faut bien le dire, n'est pas la métropole, quoi qu'on en dise. Un prisonnier fraîchement libéré ne va pas tarder donc à lui demander un service, et c'est l'engrenage. Dans un film où il ne fait pas souvent beau, Stéphane Desmoustiers s'intéresse au destin d'une femme tout à fait ordinaire qui va devenir complice du grand banditisme. Il le fait sans jugement, en alternant alors deux récits, celui de celle qui est désignée coupable pour le spectateur, on voit exactement l'engrenage, et celui de l'enquête avec des policiers complètement paumés. Il en résulte un film plutôt bien maîtrisé par Stéphane Desmoustiers que nous allons tout de suite écouter.
C'est quand même l'histoire de quelqu'un qui arrive dans un territoire qui n'est pas le sien et qui essaie d'y faire sa place.
Vous savez ce qu'on dit sur l'unité 2 ? On dit que c'est les détenus qui surveillent les gardiens et non l'inverse.
Le film que j'ai envie de faire, c'était un film qui s'intéresse à cette question. C'est comment on peut en quelques mois passer d'une vie ordinaire à complice du grand banditisme ou partie prenante du grand banditisme. Je pense pas que les monstres existent et donc je voulais essayer de... pas de comprendre, mais de questionner le parcours de cette fille qui est, dans mon film, totalement un personnage de fiction, qui arrive en Corse, qui travaille comme surveillante pénitentiaire et qui va petit à petit glisser. C'est vrai que c'est un personnage féminin dans un monde d'hommes. J'aimais bien l'idée d'un personnage tiraillé. Je pense que sa situation de vulnérabilité, elle est renforcée par le fait que c'est une femme. Je pense que c'est pour ça que ce personnage m'intéressait. Elle arrive dans un territoire qui n'est pas le sien. Elle arrive dans un monde qui est un monde d'hommes. Elle arrive dans un monde qui est régi par des codes qui sont parfois assez virils ou dans lesquels la séduction agit énormément aussi. Donc sa condition de femme... a une influence sur son expérience. Donc je pense que c'est pour ça que ce personnage m'intéressait.
Ouais, t'inquiète pas, ma Corse c'est petit. Si on doit se croiser, on se croisera.
Et ton mari, il est content, il a trouvé un stage.
Et au fait, j'ai besoin d'un renseignement. J'aurais besoin de connaître la date de la prochaine permission de Rose. Le jour où il sort.
Il y a deux surveillants pénitentiaires de la prison de Borgo qui jouent dans le film, qui jouent leur propre rôle. Et j'ai beaucoup parlé avec eux, j'ai aussi parlé avec des détenus. Et c'est sûr que les surveillants pénitentiaires vous le disent tous, il y a une règle, mais après c'est un métier dans lequel ils ne font que traiter de l'humain et ils doivent constamment en tenir compte. Ils sont face à des gens qui sont en situation de détresse en permanence, donc il s'agit d'entendre leur détresse, de la prendre en compte et de parfois toute proportion gardée, l'apaiser. C'est une histoire de curseur et notre personnage, effectivement, elle a cette attention-là, cette vigilance, cette empathie, mais elle va aussi peut-être, d'une certaine mesure, en être victime.
Ça règle le monde compte. C'est une bande de Corse qu'on veut à une autre bande de Corse.
Boum, boum.
Ils continuent à s'entretuer, ça nous fera des vacances.
Il y a vraiment presque deux temporalités, deux narrations et deux régimes différents. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'histoire de la matone qu'on suit avec elle. On est immergé avec elle dans son arrivée en Corse et dans ce qu'elle traverse. Et en parallèle, on suit une enquête. L'enquête qui est menée par un commissaire, qui est joué par Michel Faux, et son acolyte, qui est joué par Pablo Poli. Et cette enquête revient de manière récurrente dans une autre temporalité aussi, ce qu'on finit par comprendre en voyant le film. Voilà, j'avais écrit directement avec l'idée de ce double récit. Je trouvais intéressant qu'il y ait l'enquête policière qui régulièrement jalonne le film, parce que je trouve que ça donne un rythme. Mmh. Ça donne un rythme et aussi une respiration. J'aimais bien montrer une enquête, parce que j'aime bien les polars avec des enquêtes, et j'aimais bien l'idée de montrer... Là, une enquête qui n'est pas tout à fait exactement comme celle qu'on voit habituellement dans les films. Là, on voit qu'il tâtonne énormément, on voit qu'il se heurte à une technologie défaillante, on voit qu'il se heurte parfois à un peu de lassitude, notamment chez le commissaire qui est joué par Michel Faux. Parce que c'est ça la réalité des commissariats, c'est pas ce qu'on voit dans les films où il y a un rebondissement toutes les 7 secondes. Donc j'aimais bien montrer cette enquête qui n'est pas tout à fait comme les autres. Et puis c'est vrai qu'eux, ils ont accès à des images de vidéosurveillance qui captent tout, mais qui en fait... parce qu'il n'y a pas de point de vue, ne saisissent rien. C'est ce qu'on comprend, puisqu'on a nous aussi accès à notre réalité en suivant le personnage d'Afsarazi. Et ça, je trouvais que c'était une réflexion quand même assez intéressante. Enfin, en tout cas, que ça posait des questions sur qu'est-ce que ça signifie filmer ou qu'est-ce qu'on voit en filmant et en montrant tout. Qu'est-ce qu'on voit réellement.
Est-ce que vous aimez votre travail?
Parfois, c'est dur. Parfois, je fatigue.
Et vous êtes proche de vos détenus?
Alors, c'est toi, la matone?
Oui.
Et vous voyez certains détenus en dehors du travail?
Vous m'avez suivi?
Ouais, on t'a suivi. Elle est petite, Lila.
Être coupable de la justice n'enlève rien pour moi, ce qu'elle est dans mon film, même si on ne sait pas si la justice la rattrapera, n'enlève rien pour moi à la complexité du processus et au caractère ambivalent de toutes les émotions qui traversent le personnage. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est qu'est-ce qui... qu'est-ce qui la traverse, elle, à quel mobile ou quelles émotions font qu'elle agit comme elle agit. Je pense qu'on peut tous à un moment agir différemment, mais on est tous obligés de reconnaître qu'on aurait pu faire ce qu'elle a fait. Et c'est ça qui m'intéressait, moi.
Toi, je vais donner un conseil. Maintenant, fais-toi discrète.
Nous écoutions Stéphane Desmoustiers, le réalisateur de Borgo, excellent film en salle depuis le 17 avril. Et nous allons terminer avec un autre excellent film qui nous a tous les deux comblés, Sophia, c'est Riddle of Fire, des enfants qui cherchent le code parental, qui va leur permettre de se lancer dans une partie de jeu vidéo, mais rien ne se passe comme prévu.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Premier long métrage du réalisateur Weston Rosalie. Alors, si on le prononce un peu vite, ça sonne un peu comme Western Spaghetti. Et ce n'est pas anodin. En tout cas, c'est un nom à retenir. Alors, si mon petit mémotechnique nous y aide, pourquoi pas. Weston est originaire de l'Utah, aux États-Unis, et il revient sur les terres qu'ils ont vu grandir pour filmer cette histoire autour d'une sensationnelle bande de petits chenapans dans ce milieu naturel fait de vastes forêts montagneuses. Alors, le film est produit par sa maison de production, Anaxia. Il le filme en 16 mm, en argentique, hein, donc, ce qui permet une qualité de l'image très particulière et correspond parfaitement au conte fabuleux qu'il développe en un peu moins de 2 heures. Tourner en numérique aurait tué la magie et la suspension d'incrédulité, déclare le réalisateur. Alors, c'est vrai que les couleurs des pellicules Kodak apparaissent vives, saturées, mais tout en arborant un grain, des profondeurs de champ un peu mal gérées parfois, mais qui rendent l'image légèrement floue, vaporeuse, ce qui concourt bien à créer une ambiance féerique. Et la féerie est vraiment là, dans ce néo-conte de fées à la croisée des genres, qui se développe en une incroyable comédie d'aventure où les Goonies auraient été mixés à l'univers de Stranger Things, le tout pétri sur un plateau de Jumanji et saupoudré d'un soupçon des contes de Grimm.
What the hell?
Un groupe de 3 enfants bandits intrépides, affublés de motocross, sont lancés dans une épopée labyrinthique et enchantée. En chemin, ils rencontrent une aide précieuse, la petite Pétale, fée Follette, princesse de la lame enchantée, et ensemble, comme des gobelins des forêts, ils vont littéralement se faufiler dans un environnement parsemé d'embûches, parfois lutter et affronter les adultes, surtout, parfois esquiver les menaces pour parvenir à réaliser leur désir, faire une tarte, alors pas n'importe laquelle, une blueberry pie, pour la maman malade des garçons, et pouvoir surtout obtenir le mot de passe du contrôle parental de la télé pour jouer aux jeux vidéo. Il y a quelque chose de presque anachronique dans le rapport à la technologie qui est pourtant toujours présente dans le film, qui est une œuvre ultra référencée, on pourrait dire un film de geek à l'esthétique enivrante et accessible. La musique est magnifiquement appropriée et fait elle aussi référence à l'univers de la fantasy et aux bandes-son de vieux jeux vidéo avec des morceaux digués par le réalisateur dans le genre Dungeon Synth. Alors il s'agit d'une musique électro, au synthé, évocatrice de fantastique sombre. Aussi, en contre-pied de la bande des enfants, on a des méchants qui ont presque l'air d'antagonistes sortis de chez Tarantino ou des frères Cohen, qui se chicanent en permanence et bien qu'ils aient pour certains l'air assez dangereux et effrayants, d'autres membres du gang, hein, Marty par exemple, incarné par le réalisateur Weston Rosalie lui-même, sont plus franchement débiles. Au-delà de ce type de référence, hein, entre les pères absents et les rôles masculins à l'écran, il y a vraiment une espèce de satire filée de la masculinité. La danse est menée par les femmes, alors autant dans le groupe des kids où Alice prend souvent le lead, que chez les méchants où la sorcière toute puissante soumet le reste du groupe à ses désirata. Elle soumet notamment, plus franchement, le bandit cow-boy viril, repris de justice, John Red Rye, interprété par Charles Halford. Alors, dès son entrée en scène, à lui, qui est morcelé dans le film, on voit sa main qui s'empare de la dernière boîte d'œufs du supermarché, puis ses boots, son chapeau, son truck. Enfin, on a vraiment pièce par pièce tous les attributs du catalogue de la virilité néo-western. Le personnage que parvient à développer, en fait, Weston Rosalie, est éminemment drôle et complexe. On est face à un vrai bad boy viril, un méchant qui fait peur et qui ne supporte pas de répondre aux ordres d'une femme, mais qui est comme prisonnier d'une forme d'impuissance ridicule qu'il dépeint lui comme parfaitement dépassé, voire totalement désuet. Alors là, les références sont certainement innombrables. Ses allures de bûcheron cow-boy des montagnes et son caractère le font ressembler, à mes yeux, autant au Dude, Duc en français, des Cohen, ou à Sylvain, dans Simple comme Sylvain de Monia Choukri, ou encore à un Rick de The Walking Dead, ou au personnage de Dick dans la série I Love Dick. Il y aura encore tellement à dire sur ce premier long métrage magique où le pouvoir de l'imaginaire et le folklore sont célébrés comme exutoires pour bâtir un monde fort d'amitié au-delà des carcans familiaux dysfonctionnels. Je dirais seulement allez le voir, c'est un film coup de cœur envoûtant et retenez ce nom, Weston Razzoli, ça sonne comme Western Spaghetti.
Et ce film, donc, ce petit bijou, est à voir en salle depuis le 17 avril.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine, alors évidemment, avec toujours des films. Manu nous parlera de Première Affaire et de Déserteur. Et toi, Guillaume ?
De L'Échappée.
Et puis toi, Sophia ?
Cité Radio vous donne rendez-vous.
Salut, c'est Guillaume Colomba. Si vous êtes fan des années 80, alors je vous donne rendez-vous dans Rétro Musique pour un voyage dans cette décennie. Vous retrouverez bien sûr le meilleur de la musique, mais aussi des chroniques comme le double titre et la perle rare. A bientôt.
Rétro Musique avec Guillaume Colomba, c'est tous les vendredis à 20h et le dimanche à 19h sur Cité Radio, la positive info.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Au début du 19e siècle, le goût pour les contrastes dynamiques semble s'être généralisé, au point que les nuances extrêmes et les sauts entre pianissimo et fortissimo passent dans le langage musical usuel. Dans la même période, on semble porter une attention de plus en plus soutenue à l'homogénéité de la couleur de la voix ou d'un instrument dans tous les registres de sa tessiture. Dans ce contexte, qui passe volontiers les questions d'expression au crible des connaissances scientifiques, l'Académie des sciences s'en mêle en lançant en 1840 un appel pour que les chercheurs donnent des explications anatomiques, acoustiques et physiologiques aux mécanismes de la voix humaine. Les mémoires et traités sur la voix fleurissent, les médecins et les profs de chant croient parler de la même chose, alors que sans doute pas tout à fait. Parmi eux, il y en a un qui est à la fois médecin et professeur de chant au conservatoire, Manuel Garcia Fis, qui va pousser l'investigation jusqu'à développer un laryngoscope pour examiner le fonctionnement du larynx en train de chanter. Le dit laryngoscope est devenu un objet patrimonial qui a été acquis par le Centre Européen de Musique à la Villa Viardot, du nom de Pauline Viardot, la sœur de Manuel Garcia Fis, et c'est justement à la Villa Viardot, à Bougival, à l'occasion de sa réouverture au public après sa restauration, que le Centre Européen de Musique a offert à Métaclassique le soin d'inaugurer ses salons pour enregistrer cette émission et offrir un premier événement à la mesure de ses enjeux, en sondant l'histoire du laryngoscope et à travers lui, des débats scientifiques qui entouraient la voix lyrique à la grande époque du bel canto. Pour ce faire, nous accueillons Michel Castelingo, chercheuse CNRS au laboratoire d'Alembert, qui a signé en 2015 aux éditions Erol Écoute musicale et acoustique, mais aussi l'historien du chant Pierre Giraud, qui enseigne à l'université de Toulouse, et Alessandro Patalini, qui enseigne le chant au conservatoire Frescobaldi de Ferrara, qui a édité quelques-unes des méthodes de Manuel Garcia père et fils en Italie. Et puis en fin d'émission, nous recevrons celui sans qui nous ne pourrions être dans cette Villa Viardot, le président fondateur du Centre Européen de Musique, Georges Chaminé, qui est à l'origine de la restauration de la Villa Viardot et de l'acquisition du laryngoscope de Manuel Garcia Fis. extrait du Barbier de Séville de Rossini par Fernando de Lucia, un enregistrement de 1904 que Manuel Garcia Fils aurait pu entendre, puisqu'il est mort en 1906 à l'âge de 101 ans, puisqu'il était né en 1805. Bonjour Pierre Giraud.
Bonjour.
En quoi est-ce qu'on pourrait dire que Fernando de Lucia, à l'oreille, serait reconnaissable comme un héritier de la méthode Garcia ?
Dans la tradition des ténors, Giorgetti, d'ailleurs, a travaillé avec De Lucia. On a ce répertoire qui nous vient de Garcia Père, déjà de l'époque vraiment de Rossini, et qui traverse tout le XIXe siècle, avec quand même des demandes, des traditions, des particularités, qui sont très bien consignées par Garcia Fils, dans la méthode où il exprime tout le legs musical de son père, cet immense interprète et compositeur. Et voilà ce qu'on entend encore là dans la subtilité avec laquelle De Lucia utilise la voix mixte, utilise une fois effectivement la voix de poitrine, une fois quelque chose de plus léger, toujours très clair dans le timbre. Et donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui nous suit dans ce questionnement autour des mécanismes, puisque Garcia était ténor, Garcia Fils était ténor, son élève Bataille, dont on parlera peut-être tout à l'heure, était ténor aussi. Donc il y a cette tradition assez européenne, en vérité, de cette école espagnole, en italien, ça se passe en France, ça va à Londres aussi. Donc là, c'est pour ça que cet extrait, je crois, nous situait un petit peu esthétiquement.
Alors, on va déplier tout ça. Tout d'abord, Alessandro Patalini, bonjour.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, clairement, qui était Manuel Garcia Fils ?
Oh, Garcia était un génie, certes, mais un génie particulier. Omnivore, multidisciplinaire, un vrai chercheur. Il était un exemple vivant de la fusion entre différentes disciplines et cultures. On pourrait le définir un champion des intersections culturelles. Espagnol par naissance et par caractère, italien pour sa formation musicale et vocale, français pour la formation intellectuelle, scientifique et pour la langue, anglais pour choix de vie. Une figure extrêmement actuelle, un précurseur, un vrai citoyen de l'Europe, si l'on considère que notre continent, à l'époque, s'est composé de nations en conflit les unes avec les autres, alors qu'aujourd'hui, elles sont fortement unies et solidaires autour de valeurs largement condivisées, comme la musique. Garcia fut orienté par son père vers l'étude de la musique et du chant, le métier des familles. Mais il était fortement attiré vers les disciplines scientifiques, la physique, la mathématique, la physiologie. Il était donc formé à la comparaison des différentes disciplines. On peut dire qu'il avait la passionnalité, l'inquiétude de sa sœur Maria Malibran, et la calme ténacité, la patience de sa sœur Pauline Viardot.
Pourquoi est-ce que cette figure de Manuel Garcia Fils, pour vous qui enseignez le chant au conservatoire de Ferrare, elle est importante aujourd'hui ?
Oui, on doit considérer qu'avant d'inventer le laryngoscope, Garcia avait déjà réaliser la systématisation la plus profonde et la plus détaillée des connaissances de l'art du chant italienne du XVIIIe siècle, et dans le mémoire sur la voix humaine et dans le traité complet de l'art du chant. En effet, avant Garcia, les procédures didactiques étaient totalement empiriques. Garcia réussit en grande partie à décrire les chants en comparant les connaissances anatomiques et physiologiques avec l'écoute de son, l'observation de mouvements externes du larynx et la posture du chanteur. Son objectif déclaré était de relier les effets aux causes. Il décrit les différents registres, les timbres, la respiration, sans savoir ce qui se passait réellement à l'intérieur du larynx. Malgré ses excellents résultats, il avait encore des doutes et il voulait observer l'organe vocal en mouvement. Alors, quelques années plus tard, l'invention du laryngoscope fut la réponse à ce besoin. Le laryngoscope est donc né comme un instrument de connaissance artistique avant d'être physiologique au sens large du terme.
Bonjour Michel Castelango.
Bonjour.
Alessandro Patalini vient de nous expliquer qu'en effet, il invente le laryngoscope après avoir élaboré théoriquement bien des choses sur le fonctionnement de la voix humaine. Donc ça va lui servir à confirmer un certain nombre de choses déjà théorisées pour mettre des dates. Donc il invente le laryngoscope en 1854, mais il publie déjà ce mémoire sur la voix humaine en 1840.
Disons que c'est un peu plus compliqué parce que le laryngoscope... existait, mais lui a su s'en servir, parce que ce n'est qu'un petit miroir pour regarder dans le fond de la gorge.
Oui.
Pour comprendre ce qui se passe, il faut tenir la tige du miroir de façon précise, il faut orienter la lumière, et il faut savoir regarder dans la gorge. Or, d'autres personnes avant lui s'étaient servies du laryngoscope et n'avaient rien compris. Et le génie de Garcia, c'est d'avoir, initialement, il avait fait des dissections sur des larynx. Il s'était intéressé vraiment du point de vue médical. Il avait une petite formation médicale. Et donc, il a su tout de suite où aller voir. Et comme il chantait, il s'est observé en chantant et en faisant les changements de registres, de mécanismes, selon les termes qu'on utilise.
Parce que sa question, quand il se met un laryngoscope devant le larynx, en quelque sorte, tout en chantant...
Alors, il faut le mettre dedans.
Ah, il faut le mettre dedans. Mais qu'est-ce qu'il questionne ?
C'est un petit miroir comme de dentiste. Mais le dentiste, il ne va pas... il ne me fait pas voir là-dedans, nous. Mais lui, il peut regarder là-dedans.
Et la question qu'il se pose, c'est qu'est-ce qui change dans le larynx au moment où je passe de la voix de poitrine à la voix de tête ?
Il a parfaitement vu que... D'abord, il fallait identifier qu'est-ce qui produit la vibration. Mmh. Et il parle de, je ne sais plus quel est le terme qu'il utilise, de bandes élastiques, qui sont en fait les cordes vocales, comme on les appelle aujourd'hui, ou les tendons vocaux. Et il dit, quand on passe de la poitrine à l'aigu, ça n'est plus toute la largeur qui vibre, mais seulement le bord. Et ça, il l'a identifié, mais il fallait savoir déjà avant ce qu'il fallait regarder. Mmh. Et c'est ça son génie. C'est qu'il avait tellement réfléchi, il a vu ce qu'il pensait déjà. Et c'est effectivement cette observation qui est fondamentale. Et c'est pourquoi tous ceux qui avaient utilisé le laryngoscope avant n'avaient rien compris.
Alors, pour bien voir la réalité lyrique de ce genre de questionnement, à ce moment-là, on va écouter un extrait d'un opéra de 1825 qui s'appelle La Dame Blanche de Boieldieu, que donc Garcia a pu, je ne sais pas s'il l'a chanté, ou si en tout cas l'entendre, et qui va nous donner à entendre comme ces changements de registre vont pouvoir être esthétiquement investis. On écoute l'extrait et puis vous nous le commentez, Michel Castelango. C'est David Dries qui chantait en 1927 cet extrait de La Dame Blanche. Qu'est-ce que vous écoutez là, Michel Castelango, dans cet extrait ?
Les changements de qualité de la voix qui sont admirablement maîtrisés par David Dries. Et il joue avec le changement de mécanisme quand on... Alors, le mot mécanisme...
C'est vous qui le mettez, le mot mécanisme, un peu à la place de registre, parce que, alors, oui, parce que le mot registre vous gêne.
Y a toujours eu un problème de vocabulaire oui. dans la voix. Hein. C'est d'ailleurs ce qui, on y reviendra, reste un tout petit peu problématique dans oui. la méthode de Garcia, qui continue à utiliser le registre de Fossettat jusqu'à la fin de sa vie. Mais ça, c'est une parenthèse.
Non, on en parlera tout à l'heure, mais précisément, il faut d'abord poser les enjeux, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous utilisez le mot mécanisme et pourquoi vous
pouvez faire pour éviter justement l'ambiguïté des termes qui dépendent des chanteurs, des écoles esthétiques et des pays aussi. Oui. Savez-vous que le mot registre qui apparaît dans la première méthode du Conservatoire de Paris est emprunté à l'orgue, c'est dit clairement. Mmh. Nous appelons registre comme dans l'orgue, il y a un registre de tuyaux qui ont les mêmes sons. Ah ben, on va employer le mot registre pour la voix. Mais en fait, dans la compréhension de la voix, il faut laisser de côté le timbre et penser à la production du son. Et c'est pour ça que nous avons utilisé le terme mécanisme, qui n'est pas très joli, mais au moins il est sans ambiguïté. On est au niveau de ce qui fait le son. C'est-à-dire la vibration dans le larynx.
C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre une voix de poitrine et une voix de tête, c'est le nombre de vibrations à la seconde. Non, c'est...
Pas du tout. On peut très bien, sur la même note,
oui.
chanter tantôt sur cette note avec... Enfin, pas sur toute l'étendue de la voix, dans le médium de la voix, entre le do 3 et le sol 3.
Oui.
C'est-à-dire entre le do en dessous de la clé de sol et le sol à peu près. C'est la zone dans laquelle...
Pour les hommes?
Non, c'est commun aux hommes et
d'accord,
aux femmes.
D'accord.
Mais les femmes, on ne les étudiait pas. Ça, c'est autre chose. C'est un problème de société. Bon, donc, pour les hommes qui utilisaient beaucoup l'aigu de leur voix, c'est dans cette zone-là qu'on pouvait changer et que les chanteurs travaillaient de façon à ce qu'ils atteignent un timbre similaire et surtout qu'ils puissent passer du premier au deuxième mécanisme sans qu'on entende un petit hoquet. Manuel Garcia utilise le terme de hoquet. Et d'ailleurs, dans sa méthode, il y a plein d'exercices pour travailler la disparition du fameux hoquet. Alors, ce que nous avons entendu avec David de Vries, c'est qu'il a une habileté diabolique, il passe de l'un à l'autre et on n'entend pas. Il est arrivé à masquer ce hoquet, à masquer le changement de production au niveau de la glotte, c'est-à-dire ce qu'on appelle la poitrine, où c'est toute la largeur des bandes ventriculaires qui vibrent, et ce qu'on appelle la voix de tête, c'est seulement les bords, enfin, c'est plus compliqué que ça, mais c'était l'observation de Garcia.
Parce que vous avez regardé un peu tous les traités qui sont écrits sur la voix dans les années 1830. Il y en a un paquet. Il y a Nouvelle théorie de la voix humaine de Malgaigne en 1831, Recherche sur le mécanisme de la voix humaine de Benatti en 1832, Précis élémentaire de physiologie de Magendie en 1833, Traité des maladies des organes de la voix de Colomba en 1834. Donc il y a une forte activité des médecins pour penser ce qui se passe dans la voix. Et il semble que dans toute cette littérature, ce qu'apporte Manuel Garcia fils est à la fois plus lumineux que les autres, parce qu'il est aussi chanteur et que ça lui permet d'avoir une autre acuité.
Ah, c'est pas seulement chanteur, je crois qu'il avait véritablement un esprit rationnel, et c'est le premier. Alors, je connais pas trop la méthode de son père, je ne sais pas si déjà son père faisait la différence. L'autre génie de Garcia, c'est d'avoir séparé les trois qualités de la voix. Grave, aigu, fort, faible, timbré ou pas timbré. Alors que les chanteurs qui essayent de parler des registres, ils s'appuient sur le son, dans son ensemble.
Avec les trois variables.
Ils mélangent les trois caractéristiques. Ouais. Et le laryngoscope lui a permis de mettre le doigt sur la source qui fait le son, le nombre de vibrations. Et cette source, elle est au niveau de ce qu'on appelle les cordes vocales. Et ça, il l'a vu avec le miroir. C'est vraiment ça. Ça a confirmé ce qu'il savait. Mais quand on le voit, je ne sais pas pourquoi, mais la vue est effectivement supérieure à l'audition de ce point de vue-là. Et à partir de là, tout confirmait ce qu'il avait dit dans ses premières méthodes. Donc ça venait peut-être de son père. Autrement dit, il définit les registres indépendamment des changements de hauteur et des changements de timbre. puisqu'il y a des recouvrements entre ces deux mécanismes. Mmh. C'est-à-dire le grave, c'est la voix de poitrine, l'aigu, c'est la voix de tête, ou le fossé, comme disent les hommes, puisque pour eux, c'est imiter une femme, donc c'est fossé. Et entre les deux, il y a quasiment une octave, de, on va dire, de sol 2 à sol 3, et dans cette octave, on peut passer d'un type de production vocale à un autre, d'un mécanisme à un autre, et tout le travail va être de égaliser l'intensité ou égaliser le timbre. Et ça, il le dit très clairement, et c'est dans son mémoire, c'est vraiment le génie. Alors que les chanteurs disaient, la voix est dans la tête, elle est dans la poitrine, ils mélangeaient tout sur la base des sensations qu'ils avaient. Il ne pouvait pas s'abstraire de la production.
Alors, vous dites qu'il est plus clairvoyant que les autres, mais indépendamment du fait qu'il est chanteur, j'ai quand même l'impression que c'est bien parce qu'il est dans une recherche d'égalité vocale entre les registres qu'il arrive à cette clairvoyance, Pierre Giraud, non ?
Mais là, on a entendu David de Vries dans cet exemple où il enchaîne d'abord, il fait deux fois le même motif en faisant une fois voix de poitrine, mécanisme 1, une fois voix de tête, puis il nous fait mécanisme 1, mixe 1, mixe 2, mécanisme 2 à la suite, là, cette fois-ci en l'étageant, c'est effectivement exemplaire. C'est un exemple dans La Dame Blanche. La Dame Blanche, c'est le rôle des ténors français créé par Louis Ponchard, qui est professeur au conservatoire, qui a travaillé avec Garcia Paire. Et qui a donc sa classe au conservatoire et ses élèves. Et ses élèves trouvent que la méthode de Garcia Fils est bien, bien plus claire que ce qu'essaie de dire Ponchard, qui ne s'occupe pas trop de technique. Et donc, ils enseignent ça. Ils enseignent ça tout de suite. Et effectivement, on va donc confier à Garcia, puis à son élève Bataille, qui était lui-même d'ailleurs un médecin au départ, qui arrive de Nantes et qui devient chanteur, on va leur confier les élèves et qui ont des problèmes, les élèves qui ont le moins de voix au départ, très peu points de voix, et puis on estime qu'en fait, eux pourront en tirer quelque chose. Donc tout le monde vient, Jenny Lind vient quand elle a des problèmes vocaux. Hein, on est chez des gens qui se posent des questions et donc qui ont une capacité à résoudre des problèmes et pas seulement à accompagner artistiquement, disons, des sujets dont la voix fonctionne déjà très bien. Ça, c'est très frappant.
Sur le site du Centre Européen de Musique, Thomas Cousin, qui prépare une thèse sur la bibliothèque de Pauline Viardot entre la Sorbonne à Paris et l'Université Libre de Bruxelles, justement parle du cas de Jenny Lind et il nous dit qu'après une apparition à l'Opéra de Stockholm le 19 juin 1841, la voix du rossignol suédois, entre guillemets, s'est brisée, rudement mise à l'épreuve par des efforts excessifs et une mauvaise méthode de chant. Et dès le 25 août, elle débute ses leçons sous la direction donc, de Manuel Garcia, qui la prend sous son aile à raison de deux fois une heure par semaine jusqu'en juillet de l'année suivante. Et le 10 octobre 42, la diva se produit de nouveau à Stockholm et sa voix est alors considérée un peu comme miraculée. Ça veut dire que aussi parce qu'il est médecin, il reçoit un certain nombre de chanteuses, de chanteurs à problème.
Alors, il faut dire que là, on a dit qu'effectivement, les choses venaient de Garcia Paire. Garcia Paire, dans l'édition posthume française de sa méthode, dit déjà plusieurs personnes qui croient souvent n'avoir pas du tout de voix, ou bien d'en avoir peu, ou d'une mauvaise qualité. C'est une erreur, parce qu'en général, tout dépend de la bonne ou mauvaise manière de la faire sortir. J'ai prouvé, nous dit Garcia Paire, avant l'invention de tout ça, à plusieurs de mes élèves qui se croyaient dans ce cas qu'ils se trompaient par mes soins, j'ai su leur faire trouver la voix qu'ils pensaient ne pas avoir. Donc ça, c'est quand même la mission du professeur de chant, disons toute catégorie confondue. Ce que je crois, c'est que les personnes comme Garcia Fils qui se posent ces questions de physiologie vont être à même d'apporter de nouveaux outils, de penser autrement et de sauver des gens, soit à un moment où leur technique est faillible, soit à un moment où, effectivement, on a affaire à un musicien dont la voix n'est pas encore bien définie.
C'est ça, c'est-à-dire que donc la méthode de Manuel Garcia Fils en 1840 hérite beaucoup essentiellement de Manuel Garcia Paire et le laryngoscope va juste servir à confirmer
tout
ça.
Pour vous dire combien Michel tout était en place déjà, si vous permettez, je vais vous lire un extrait de cette méthode de 1840. Il dit « Par le mot registre, nous entendons une série de sons consécutifs et homogènes allant du grave à l'aigu, produite par le développement du même principe mécanique » et dont la nature diffère essentiellement d'une autre série de sons également produits par un autre principe mécanique. Tous les sons appartenant au même registre sont par conséquent de la même nature, quelles que soient d'ailleurs les modifications de timbre ou de force qu'on leur fasse subir. Donc il met bien la définition de registre au niveau de la production du son. Et c'est pour ça qu'avec le laryngoscope, il n'a fait que prouver, vérifier ce qu'il savait déjà en 1840. Et peut-être son père aussi, enfin je connais pas trop.
Alessandro Patalini, ce que va permettre le laryngoscope, c'est, on l'a dit, une auto-observation. Qu'est-ce que ça implique que ce soit de l'auto-observation ?
Oui, je voudrais souligner que l'une des images que Garcia a publiées dans son nouveau traité sommaire de l'art du chant le représente lui-même en train d'observer ses propres cordes vocales grâce au laryngoscope. Ainsi, le sujet observateur coïncide avec l'objet observé. C'est très important car il savait ce qu'il faisait en chantant. Il s'agit donc d'une auto-observation consciente qui lui permet d'objectiver une ancienne didactique empirique grâce à un procédé scientifique moderne. Garcia était à la fois un chercheur de la science moderne et un chanteur de l'ancienne école. C'est très important, selon moi.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que le laryngoscope l'ait mis sur de fausses pistes ? Parce qu'avec un instrument scientifique dans les mains, on peut se mettre à se poser des questions qui n'ont pas de réponse viable. Ou alors, est-ce que le laryngoscope devait résoudre complètement ses doutes sur l'action des registres ?
Oui, certainement. Mais son laryngoscope ne pouvait et pas résoudre ses doutes sur l'émission de sons aigus. Et ce que Garcia appelle son du registre de tête. En effet, dans ces sons, les vibrations des cordes vocales sont très rapides. Et avec un laryngoscope comme celui de Garcia, les cordes vocales semblent immobiles. Alors, Garcia a donc formulé des hypothèses sur ces sons, mais il n'a pas pu donner de réponse définitive à ces doutes. En tout cas, selon moi, le limite technologique de son laryngoscope ne diminue pas la valeur de son travail et de ses observations, parce que Garcia, je le répète, n'a pas observé simplement la voix, mais le chant de son époque, et a décrit les fondements physiques d'un art très difficile à réaliser et à objectiver. Cela, selon moi, la grandeur de Garcia, qui était un chanteur et professeur de chant qui a travaillé comme chercheur scientifique pour mieux connaître l'instrument vocal, pour transmettre, partager, éduquer, et en même temps sauvegarder un patrimoine d'enseignement autrement destiné à se perdre dans les transformations constantes propres à la transmission orale.
Donc une sorte de cercle vertueux entre le chercheur, le chanteur, le pédagogue et aussi celui qui maintient une tradition qui lui vient
oui,
de son père.
Oui. C'était, lui était le dernier des anciens et le premier du moderne.
Il se trouve qu'on est aussi à une époque où sur la scène, eh bien, on aime entendre manifestement des chanteurs qui vont au bord de leurs possibilités vocales et de registres. On va écouter l'exemple du contrut dans le Guillaume Tell de Rossini, ici interprété par Nicolas Guéda.